L'advance, en fait, c'est ce qu'on appelle les surdoués. Les gens qui ont, bon, par établissement avec les tests, le Waze puis le WISC, un QI de plus de 130.
Bonjour, je suis Mathilde, apicultrice ou pour certains, facilitateur de bonheur. Dans ce podcast Travailler autrement, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous ont montré que tout était possible avec une même aspiration, le bonheur au travail. Découvrez des parcours atypiques, inspirants et indispensables pour construire le monde de demain. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Cindy Lamontagne, apicultrice. Elle cultive le bonheur en entreprise via des solutions concrètes sur mesure, en considérant les besoins et les envies des employés, en favorisant entre autres la neuro-inclusion. Nous allons voir que les gens neuro-atypiques sont une véritable force si on leur donne l'opportunité d'ouvrir leurs ailes, et nous allons poser la question: quelles actions peut mettre en place l'entreprise pour intégrer ces talents atypiques? Bonjour Cindy, merci de me recevoir dans ce café anti-café à Montréal. Toi, tu es apicultrice et tu t'intéresses à ce qui est le bonheur au travail, notamment par rapport au profil neuro-atypique. Et moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces profils-là?
En fait, j'ai commencé Cultura Coaching, en fait, a commencé ses opérations en janvier 2019 parce que, après deux expériences complètement affreuses en entreprise, où ce que j'ai vraiment vécu, de se faire juger pour sa neurodifférence, j'ai décidé de partir ma propre compagnie parce que je me dis qu'en ce moment, dans le milieu du travail, on a vraiment on a quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui doit changer. Si, mettons, je regarde par rapport à mon parcours à moi, dans le fond, moi, j'ai appris mon diagnostic. Ben, en fait, la douance n'est pas un diagnostic en soi, mais bien un établissement de fait. Donc, j'ai appris ça que j'avais... Je composais avec la douance quand mon fils a eu son propre établissement de fait. Donc, c'est sa neuropsychologue qui m'a dit que je devrais peut-être aller consulter pour mon petit. Ce que j'ai fait, effectivement, bon, j'ai de la douance aussi. Puis ça, dans le fond, aussi, c'est que ce que j'ai vu, c'est que moi, mon diagnostic n'était pas exact non plus parce que plus que ça allait, plus que je trouvais que c'était bizarre. J'avais des pertes de focus. Il y a des choses, ça me prenait trop de temps à réaliser puis je comprenais pas. Puis, j'ai essayé d'aller voir une clinique au niveau neuropsychologique où ce qui était beaucoup plus poussé au niveau de la neurodiversité. Puis c'est là que le diagnostic est tombé, que j'avais aussi un TDAH. Donc, ce que je devenais, c'était ce qu'on appelle un « twice exceptionality ». C'est la douance et un TDAH. Donc, le mix des deux, ça ne traite pas autant que la douance et ni comme juste la TDAH.
Est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est la douance?
La douance, en fait, c'est ce qu'on appelle les surdoués. Les gens qui ont, par établissement avec les tests, le Waze puis le WISC, un QI de plus de 130. Pour dire qu'on a de la douance, donc, il faut avoir un QI de plus de 130. Et il y a aussi tout un parcours aussi dans l'établissement de fait parce qu'on va voir aussi toutes les aptitudes interpersonnelles. On va voir, il y a souvent, au niveau de la douance, il y a des traits très, très, très communs aussi avec l'autisme Asperger.
Et qu'est-ce que tu as aperçu de différent? Parce que tu dis que tu as eu une expérience de travail difficile.
Oui.
Est-ce que c'était lié avec ton TDAH? Est-ce qu'il y avait un...
Oui. En fait, c'était vraiment lié autant avec la douance que le TDAH parce que un des traits qui fait que ma douance peut causer peut-être problème en milieu de travail, c'est que si je prends un exemple de se faire dire, des fois, il y a des patrons qui vont dire « fais ça » puis « pose pas de questions ». Moi, dans ma tête, ça marche pas. Faut que j'aie une explication, faut que je cherche pourquoi je le fais. Donc, mettons, si on me dit, mon patron me dit « fais ça, mais pose pas de questions », pour moi, ça fait aucun sens dans ma tête. Puis, tant que je n'ai pas de réponse à mes questions, c'est plus fort que moi, je vais poser des questions. Ça peut vraiment causer problème. Le sentiment d'injustice aussi, complètement incapable. Puis, au RH, des fois, on en voit souvent. Tu sais, des fois, un patron qui me dit « ah, mais trouve un moyen de renvoyer telle personne parce qu'elle me tape ses nerfs. » C'est arrivé des fois. Mais s'il n'y a pas de raison logique, pour moi, dans ma tête, ça ne marche pas.
D'accord. Donc, toi, tu t'es rendu compte face à ça, là, tu as un diagnostic. Ce que tu me racontes, c'est que tu es dans une expérience professionnelle difficile. Et là, tu es diagnostiqué donc, à 30 ans, ce qui est plutôt tard.
Enfin, oui.
Ce qui est donc une connaissance de toi où c'est comme « waouh ».
Ça remet tout en question.
Tu comprends enfin ce que tu as et tu te dis « mais il faut aider ces personnes qui sont comme moi, qui sont en difficulté dans l'entreprise ».
Il y en a beaucoup. Donc, moi, au début, j'ai juste pensé, OK, bon, la douance, comment on traite ça? Puis là, je me suis renseignée, puis je me suis mis à lire sur le sujet. Puis comment qu'on interagit? Parce que le feeling de ne pas fitter nulle part est tellement fort.
Donc, tu te sens vraiment rejetée, en fait. Tu sens...
Oui, parce que les gens ne comprennent pas nécessairement. Parce qu'au niveau de la douance, il y a souvent une hypersensibilité qui vient souvent avec. C'est pas... J'ai juste le terme anglais, c'est pas mandatory là, d'être hypersensible quand on a la douance, mais c'est très, 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 très fréquent. Donc, il y a l'hypersensibilité, ça peut être autant olfactif, sensoriel, tactile, auditif. Tu sais, un bureau fermé, pas de fenêtre, juste avec des néons, ça me rend complètement folle, ça me donne des migraines. C'est vraiment physiologique. Puis, même chose, j'ai l'odorat surdéveloppé aussi, donc des odeurs... trop présente, ça peut être difficile aussi.
Ouais, qu'est-ce que tu invites à faire là? Parce que toi, tu as pu déceler ton parcours et ce que tu avais, donc maintenant tu as une meilleure connaissance de toi.
Oui.
Donc si tu es un futur recruteur, enfin, maintenant tu es à ton compte et tu vas nous dire ce que tu fais. Mais donc tu sais comment, tu sais que tu vas pas te retrouver si tu vois que le bureau est dans une salle, comme tu me l'as évoqué, sans fenêtre avec des néons, tu vas dire non tout de suite. Mais quand on a une méconnaissance de son soi et on est plutôt en train de subir, on réalise pas vraiment. Donc, et qu'est-ce que tu conseilles donc déjà pour les personnes voilà, qui s'interrogent et pour les gestionnaires aussi qui des fois ne le savent pas que cette personne a ça? Comment on fait avec tout ça?
Mais je pense qu'il y a deux aspects, parce que quelqu'un qui se doute ou qui apprend qu'il y a une neuroatypie, c'est difficile au début. C'est difficile parce qu'on se dit, ok, j'ai toujours pensé, que, surtout quand on l'a tardivement, on se dit, ok, j'ai toujours pensé que j'étais d'une façon, finalement, j'étais pas comme ça. Tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que moi, dans ma tête, la perception que j'avais de la réussite sociale était de toujours être une mère exemplaire, de toujours être on top of my things, de que mes enfants étaient toujours parfaits, que mes enfants, ma maison était toujours propre, qu'on pouvait manger par terre, que j'excellais dans mon travail, j'excellais partout, à l'université et tout et tout. Mais je me suis mis à terre parce qu'à un certain moment donné, l'anxiété a pris le dessus. Tu sais, dans ma tête aussi, la réussite, c'était d'être toujours parfaitement habillée, toujours parfaitement maquillée, toujours parfaite, 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 parfaite partout.
Tu t'es mis un idéal et tu t'es pas écoutée, en fait.
Ben non, parce que ça, avec le diagnostic, il y a eu un processus, mais en 3 ans, bientôt 4, ce que j'ai appris, c'est que j'ai le droit de pas vouloir aimer ça, porter des vestons. Même si, dans certains cadres professionnels, ben, c'est obligatoire. Mais moi, les vestons, je me sens étouffée là-dedans, mais j'ai le droit de pas vouloir les porter, puis c'est correct. Ça fait pas moins que ma compétence est moins valable à cause de ça. Tu sais, puis dans les 2 dernières expériences que j'ai eues, moi, il y a quelque chose en ce moment, tu sais, là, tu parlais des recruteurs. Le mode de recrutement classique aujourd'hui m'horripile. Je déteste le recrutement tel qu'il est aujourd'hui parce qu'on prend pas en compte que c'est à des humains qu'on parle. On prend pas en compte que les humains qu'on a en face de nous peuvent avoir des grandes forces, puis que si on leur permet pas de les exploiter, ben de un, on va les éteindre, puis de deux, ben pourquoi qu'on les embauche au final si c'est pour essayer de rentrer dans un moule? Combien de gens vont dire en entrevue, ah ben moi je suis autiste? Tu sais, qu'ils vont le dire avec fierté parce que oui, il y a des forces qui viennent avec l'autisme, oui, il y a des forces qui viennent avec la douance, oui, il y a des forces qui viennent avec le TDAH.
Ouais, ils ont peur d'être...
Ben, si on parle juste, mettons, des mythes et perceptions qu'on a. Tu sais, quand on pense à quelqu'un de TDAH, on pense à quelqu'un qui va jumper partout, qui a des vers dans le derrière, puis qui s'arrête pas. Mais outre ça, il y a des solutions qu'on peut mettre en entreprise. Un exemple concret que j'utilise souvent, j'avais eu à un moment donné un comptable qui était TDAH. L'employé, le gestionnaire voulait le renvoyer parce qu'il tapait ses nerfs de ses collègues parce qu'il dromait sur son bureau. Fait que ça faisait du bruit, c'était fatigant, les gens trouvaient ça gossant, ça marchait pas. Puis le gestionnaire a essayé plein d'affaires, mais tu sais, c'était pas des choses adaptées non plus. Puis le gestionnaire connaissait pas c'était quoi le TDAH. Donc, puis on sait que, mettons, dans un bureau de comptable, c'est souvent très beige en général. Donc, c'est pas, tu sais, c'est souvent des gens très studieux, très analytiques, très, très cartésiens aussi. Donc, un TDAH puis cette personne-là avait une faculté de trouver les erreurs dans des états de compte, là, c'était hallucinant. Quand le directeur est venu me voir pour me dire, écoute, ça marchera pas avec cet employé-là, il tape ses nerfs à ses collègues, ça fonctionne pas. OK. C'est quoi vous avez essayé d'un? Mais il dit, bon, essayez telle affaire, puis ça marche pas. J'ai dit, OK, est-ce que tu me laisses 2 semaines? Laisse-moi carte blanche, puis 2 semaines. Puis si ça marche pas, puis ce moment-là, c'était vraiment un petit peu audacieux, puis j'ai dit, puis si ça marche pas, je te trouve la faille dans l'article de loi, puis je m'arrange de faire ce que tu me demandes. Mais laisse-moi essayer. Comme de fait, il m'a dit, garde, il dit correct. Parce que pendant quasiment 8 ans, j'étais dans une entreprise où j'ai été acceptée, où j'étais. Donc, j'ai jamais réalisé l'ampleur de ce qui se passait sur le marché du travail, parce que j'étais vraiment dans de la ouate. Puis, comme de fait, le comptable en question, on avait remplacé sa chaise par un ballon de gym, dans le fond. Donc, il pouvait bouncer sur son ballon. Puis, on avait instauré aussi la méthode Pomodoro.
La technique Pomodoro est une technique de gestion du temps développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Cette méthode se base sur l'usage d'un minuteur permettant de respecter des périodes de 20 minutes appelées pomodori, qui signifie en italien tomate. Alors je vous le recommande notamment si vous n'arrivez pas à compléter vos nombreux travaux en attente.
Donc à chaque heure travaillée, il se levait 10 minutes. Chaque heure travaillée, il se levait 10 minutes. Il allait marcher. Fait que juste ça, puis tu sais, c'est sûr qu'il avait été voir aussi au niveau d'une certaine médication, voir s'il y avait besoin. Donc, tu sais, on avait pris des arrangements aussi avec les médecins, avec les assurances et tout. Puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a même pas eu besoin d'une grosse médication. Il y a eu un petit réajustement juste pour dire, mais c'était vraiment minime. Mais juste le fait d'avoir changé sa chaise pour un ballon, puis d'avoir instauré la méthode Pomodoro, de lui permettre de se dégourdir les jambes à chaque heure, ça avait instauré une façon que, au lieu de taper sur son bureau avec ses crayons, puis de faire du drum sur son bureau pour booster son énergie, ben, il bandissait sur son ballon, fait que ça faisait un bruit blanc. C'était plus agressant pour les gens. Les gens se sont adaptés au bruit.
Et en fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est des personnes qui ont un talent, qui ont un talent qui est précieux, mais qu'aujourd'hui, souvent, ils sont rejetés à la fois dans le cadre de l'entreprise, alors que ça pourrait être quelque chose, une source très importante. Mais il faut juste repenser le cadre, les observer et voir mais comment on fait pour être tous ensemble, travailler avec tout le monde, avec ses différences, et savoir comment on peut... Aujourd'hui, peut-être c'est l'entreprise de demain. Comment on fait pour être soi-même et puis avec cette connaissance des neurosciences pour pouvoir adapter tous les profils pour aller dans la même direction?
Ben absolument. Puis moi, j'utilise tout le temps une analogie vraiment précise de... Tu sais, les gens neurotypiques et les gens neuroatypiques, c'est comme deux prises électriques. Tu as la prise américaine, tu as la prise européenne. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, tu sais, parce que les deux prises sont différentes. Tu n'en as pas une qui est meilleure que l'autre. T'en as pas une qui est plus valable que l'autre. Les deux emmènent l'électricité du point A au point B. Sauf que pour que ça fonctionne ensemble, tu as besoin d'un adapteur. L'adapteur en milieu de travail, c'est souvent la flexibilité puis l'ouverture d'esprit.
Moi, je voulais te poser la question. Ton rôle, c'est un nouveau métier qu'on entend, la apicultrice ou responsable du bonheur. Quelle est l'importance de ton rôle?
Au niveau de l'apicultrice, moi, ça part de loin. Souvent en entreprise, du plus loin, je me souviens, quand j'ai commencé en RH, on me disait que je mettais du bonheur partout où je passais. Ça a parti de là, mais sauf qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que d'instaurer le bonheur en entreprise, des fois, c'est plus compliqué qu'il en a l'air.
Comment tu fais pour instaurer le bonheur?
Il faut s'assurer d'une belle cohésion avec les gestionnaires. Puis moi, mon opinion personnelle est que n'importe quel CHO, Chief Happiness Officer, peut être RH, mais pas l'inverse. C'est pas n'importe quel RH qui peut être CHO. Parce que ça prend vraiment une volonté de vouloir changer les choses. Ça prend une volonté d'avoir l'humain à cœur. Puis je dis pas que les RH n'ont pas l'humain à cœur. Mais les RH, encore là, moi je trouve qu'il y a trois profils différents. Tu sais, t'as ceux qui veulent changer les choses, qui ont l'humain au centre des préoccupations. T'as celles et ceux qui sont très analytiques, qui sont plus stratégiques. Puis je pense que ces deux profils-là se complètent extrêmement bien et sont nécessaires au sein d'un département RH. Puis, tu as probablement l'autre personne qui est allée en RH parce que soit qu'elle n'est pas rentrée en droit ou parce que le bac est un peu niaiseux à faire. Les deux premiers profils sont essentiels. Le troisième, bien, c'est souvent eux autres qui font que notre profession souffre parce que ça...
Parce que le moteur, en fait, vraiment, c'est ce que j'entends, moi, du métier de apicultrice, c'est de réveiller un petit peu les talents, de pouvoir les mettre dans un bon environnement pour qu'il y ait effectivement une cohésion d'équipe, pour qu'on aille dans la même direction. Parce qu'effectivement, on a tous nos différences. À l'époque, le monde d'entreprise, on a demandé d'être des exécutants, des employés, en fait. Aujourd'hui, on veut plus des collaborateurs, quelqu'un qui apporte. Exact. Mais effectivement, en fonction de l'environnement, et on se rend compte qu'on a tous, on est des êtres humains avec des talents différents. Et si toi, tu arrives à être le facilitateur et d'observer et de mettre la personne à la bonne place, mais là,
c'est assez magique. On déclenche la magie à ce moment-là. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, tu sais, comme apicultrice, dans le fond, c'est d'être capable de voir le potentiel des gens, de pouvoir dire au gestionnaire, regarde, ton tel employé a telle force, as-tu pensé à lui donner plus de responsabilité dans quelque chose qui excelle, dans quelque chose qui est bon?
Comment on fait pour faire appel à toi, alors? Parce que là, maintenant,
Là, je suis à mon compte, oui.
Ouais, t'es à ton compte.
Là, je suis à mon compte.
Et par exemple, je veux recruter, puis la personne me dit qu'elle a un profil neuroatypique, et puis moi, je sais pas comment dealer, ou en tout cas, je n'ai pas de connaissances sur ce domaine-là. Je t'appelle. Enfin, comment ça se passe?
Ben, en fait, moi, je propose toujours, pour commencer, un appel découverte. Tu sais, pour voir c'est quoi les besoins, c'est quoi qui se passe en entreprise et tout. Suite à ça, ce que je préconise beaucoup, c'est un diagnostic.
D'accord.
Un diagnostic de la situation au niveau des employés à l'interne. C'est pas nécessairement un diagnostic organisationnel au sens propre, parce que je regarde tous les processus et tout. Je vais les regarder, oui, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se fait. Donc, j'ai besoin d'avoir un bon survol, un bon pouls de ce qui se passe à l'interne. Puis à ce moment-là, c'est de voir c'est quoi le besoin en formation. Il y a des entreprises aussi qui peuvent complètement juste acheter la formation parce qu'ils savent exactement ce qui se passe à l'interne. Leur RH ont fait déjà leur enquête et tout. Donc, il y a autant la formule Lunch and Learn, il y a la demi-journée, le deux jours, il y a la formation sur mesure aussi. Parce que, mettons, je peux expliquer tout, comment les inclure. On peut faire des ateliers, on peut faire... Tout se fait à ce que l'entreprise veut décider. Justement, j'étais avec mon associé, puis on ouvre ça d'ici le mois de mars. On ouvre une filiale de Cultura. Parce que Cultura va changer pour devenir le groupe Cultura, parce qu'on va ouvrir une agence justement de placement d'employés neuroatypiques.
Super.
Donc vraiment, ce qu'on va faire, c'est que tous les employés qui peuvent... Tu sais, la façon qu'on veut apporter ça à l'entreprise, c'est les forces. C'est de dire à l'entreprise, écoute, toi, t'es en pénurie de main-d'œuvre. C'est quoi t'as besoin? Parce que moi, j'ai des employés qui ont des forces hallucinantes. Puis oui, ça va te demander de la flexibilité, parce que moi, je ne veux pas les rendre malheureux. Je ne veux pas les faire rentrer dans une boîte, parce que ce n'est pas là-dedans qu'ils se sentent à l'aise. Fait que si toi, tu es prête à embarquer dans ce processus-là, moi, je vais t'accompagner comme consultante. Là, on est déjà en démarche avec Emploi Québec, justement, pour tout ce qui est les subventions, parce que malheureusement, au niveau de la neuroatypie, il faut que ça soit considéré comme un handicap.
Comment tu verrais le recrutement de demain avec...
Humain. Je le verrais humain, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui font de plus en plus d'innovation au sens du recrutement. Tu sais, je prends juste à l'école du recrutement de Sandrine Théard.
Qu'est-ce que tu appelles un recrutement humain?
Un recrutement humain, c'est de peut-être pas mettre la personne en contexte d'interrogation. Tu sais, on veut apprendre à connaître c'est qui l'humain. On veut pas juste savoir ses compétences, on le voit sur le CV.
Mm.
Donc, un recrutement humain, c'est de dire, bon, ben écoute, viens prendre un café, on va discuter. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'allume?
Donc, en fait, toi, t'invites vraiment les RH, au lieu d'être derrière des cases ou des tableaux Excel,
oui,
à cocher, à vraiment rencontrer la personne,
l'humain,
avec qui est-ce qu'on a envie de travailler avec cette personne?
Oui.
Est-ce qu'on pense que cette personne va pouvoir développer ses talents, puis apprendre davantage et grandir avec nous?
Ben oui, parce que le but, en tout cas, moi, dans ma perception des RH, là, quand on veut un nouvel employé, on veut quelqu'un qui va être capable de s'arrimer à l'équipe, qui va fonctionner en synergie avec nous, puis qui va aider à propulser l'entreprise. C'est là le win-win. C'est où ce que l'employé peut se développer, peut se réaliser, va triper, puis qu'en même temps, ça va profiter à l'entreprise.
Oui, puis effectivement, si c'est dans une discussion, par exemple, comme tu l'as dit, dans un lieu comme un café, etc., on invite à l'échange, et plus on invite dans un échange transparent, plus on connaît la personne.
Mais oui!
Alors que si on est sur une forme assez rigide, en fait, d'entretien classique...
Les gens sont sur leur garde, ils se protègent. Souvent, comme tu disais exactement, ils vont être appelés à mentir parce qu'ils veulent pas mal paraître. Tu sais combien de fois j'ai vu des entrevues, trois personnes devant la personne? C'est limite de l'intimidation, là!
Donc toi, ce serait un entretien idéal, ce serait une personne... Avec une personne.
Une, peut-être deux, tu sais, même à la limite trois, mais dans une formule, tu sais, casual un peu, tu sais, dans un café, tu sais, comme justement, comme ici, tu sais, l'entrevue pourrait très bien se passer ici, tu sais, tout le monde est assis sur son sofa, sur son pouf.
Ouais, effectivement, l'environnement amène à quelque chose de plus convivial.
Bien sûr!
Ouais. Tu trouves qu'on a perdu ça dans les entreprises, quelque chose de convivial, de chaleureux, on a perdu l'humain? Enfin, après, ça dépend des entreprises, mais...
Oui, c'est il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont peur d'innover parce que c'est pas ce qu'ils ont connu. Puis oui, je comprends que l'adaptation du marché du travail évolue tellement vite aujourd'hui que c'est très difficile de s'adapter. Puis plus que l'organisation est grosse, plus que c'est difficile de le faire parce qu'il y a énormément de personnalité dans une entreprise.
Oui. Mais ça apprend à avoir du recul, puis à avoir ce côté humain et d'observer une personne de terrain. Hein, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir des vraies personnes de terrain pour pouvoir inclure tout le monde. Peut-être penser effectivement le rôle du RH de demain, vraiment.
le rôle des RH est tellement appelé à changer, puis heureusement, parce que, comme je disais tantôt, il y a 3 profils de RH, puis il y en a une qui n'a pas d'affaires. Là.
Peut-être repenser aussi l'université, comme tu l'as dit. Est-ce que,
Est-ce
que lorsqu'on étudie là, tout ce que tu nous parles sur les neuroatypiques, est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas informés de ça? Ou leur...
L'information est obsolète pour les 3/4.
Ça, c'est des éléments essentiels à savoir lorsqu'on est recruteur, savoir que les gens ont des intelligences différentes, qu'il y a des profils qui sont différents et quels sont leurs talents exactement.
Il n'y a pas assez de cours de psychologie dans le bac au RH. Tu sais, ni en relations industrielles, ni en RH. Puis le bac en ce moment au RH, il n'y a rien à voir quasiment avec ce qui se passe sur le terrain. Mm. On apprend beaucoup de théorie. OK, on a des bases, mais on n'est pas du tout préparé au milieu du travail. Puis c'est pas un stage par-ci par-là qui va changer quelque chose.
Oui, alors que c'est vraiment un rôle, les ressources humaines sont là pour guider les humains, en fait. Enfin, c'est un rôle humain, comprendre l'humain. Comprendre pour faire en sorte, parce qu'aujourd'hui on est sur des problématiques de fidélisation, de rétention, d'attraction de talent, de recrutement. Aujourd'hui on reste plus dans un poste dans lequel on est plus heureux. Puis il est dit que 30% des personnes qui sont heureuses dans leur boulot, et puis il faut le savoir, quand on est content d'aller au travail, on s'investit davantage.
30%, c'est pas beaucoup,
C'est pas beaucoup, et je pense que c'est beaucoup plus, en fait. Effectivement, ça, il s'agit de sa santé, donc l'absentéisme, donc c'est essentiel, en fait.
Ça joue sur tous les plans, ça joue sur tous les plans. Puis je pense que même, tu sais, l'inclusion se joue, le rôle de l'apicultrice se joue sur tout le processus, que ça soit le processus pré-embauche, de l'embauche, du rôle en emploi, puis même du rôle de départ.
Bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, est-ce que tu ne crois pas qu'on a mis en valeur des métiers, par exemple de commercial, ces métiers-là qui rapportaient beaucoup d'argent, et moins en valeur les métiers de l'humain. C'est pour ça que des fois, on a du mal à recruter un apiculteur, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va me rapporter financièrement? C'est très subtil. Mais en fait, il rapporte énormément parce qu'il y a moins de rétention, il y a plus d'attraction de talent, on a envie de rentrer dans cette entreprise, on a plus d'énergie pour pouvoir aller au travail. Cette énergie, elle est nécessaire. Mais tout ça, ce rôle-là qui est un peu...
C'est difficile à quantifier. Moi, je te vois, c'est comme une méduse.
Une méduse.
Une méduse, pas dans le sens qu'on brûle quand on y touche, là, mais dans le sens où, c'est transparent, ça a plusieurs... comme pas des tentacules, mais ça a comme plusieurs filaments. Ça touche à plein de choses, ça touche à plein d'aspects. Une apicultrice, là, c'est un rôle tellement essentiel.
Donc pour toi, c'est vraiment le métier de demain en urgence.
Ah oui.
Les employeurs et les recruteurs même qui ne croient pas. Mais c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on parle de santé mentale, de santé physique. On parle de... Voilà, c'est vraiment un métier où il y a urgence, où les gens... On voit beaucoup de gens qui changent de métier, qui changent d'orientation, qui se fait...
On voit que
la société ne leur correspond plus. Enfin, il y a un appel assez fort, en fait.
Oui, puis on dit que, mettons, les gens restent en entreprise 2 à 5 ans en moyenne. Mm. 2 à 5 ans, c'est très rapidement. Puis si on pense qu'on va investir dans la formation de cette personne-là, ben à quelque part, il faut être capable de dire, si j'ai pas établi une bonne relation avec mon employé, là... Le 2-5 ans que j'ai investi avec cet entreprise-là, il ne me rendra pas grand-chose. C'est sûr que de voir, de quantifier, de dire, OK, bon, parce que sur un an, on va être capable de dire, OK, ben on a eu, mettons, par rapport à l'année passée, tel nombre de c'est quoi notre turnover? On en a eu peut-être moins. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi les raisons des turnovers? Parce que si on agit beaucoup au niveau du bien-être employé, puis de la santé mentale, puis du bonheur en entreprise, normalement, le turnover devrait être moins lourd. Mais il ne sera jamais à zéro, parce que tu as toujours des gens qui vont quitter quand même.
Oui, et puis comment ils ont quitté aussi.
Absolument.
Est-ce qu'on a plus de douleur, enfin, voilà, quelque chose d'entendre qui était clair.
Mais oui, de l'importance de faire les suivis après, fin d'emploi, les entrevues de départ.
En fait, un apiculteur, c'est plutôt pour avoir une vision long terme que court terme. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on a la difficulté à avoir des chiffres aujourd'hui. Et aussi, un autre élément, c'est que le métier, peut-être que là, c'était le début, il y en a qui le faisaient sur le terrain sans être nommé apiculteur avant, mais il y a toujours été. Mais peut-être qu'on l'a associé à de la consommation, à un baby-foot, alors que c'est alors que c'est une vraie écoute des salariés, des collaborateurs, pour répondre à leurs besoins. Donc en fait, le rôle de l'apiculteur, c'est vraiment comment diminuer la charge mentale, comment faire en sorte que la personne dans son poste, elle puisse être à 100%.
C'est crucial parce que, tu sais, une autre affaire aussi, des fois, qui peut faire peur, c'est qu'au niveau de la neuroatypie, on pense que tout le monde va mettre ça, tout le monde va prendre leur neuroatypie comme excuse. Non. Il y a aussi une responsabilité qui incombe aussi aux neuroatypiques de prendre des moyens pour aussi mieux s'intégrer. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais camoufler, qu'on ne pourra jamais régler. Mais il y a des outils qu'on peut utiliser pour nous aussi mieux s'inclure.
Est-ce que tu as des choses que tu voulais rajouter ou quelque chose que tu veux sensibiliser?
Au niveau de la direction des comptables des entreprises, de ceux qui prennent les prises de décision, de peut-être arrêter de penser de prime abord avec un chiffre. Parce que souvent, ce qu'on sait, c'est que les preneurs de décision en entreprise, c'est souvent les directeurs d'entreprise, directrices, souvent les comptables, les contrôleurs. C'est très correct parce que eux autres qui tiennent les cordons de la bourse, puis c'est bien correct. Parce que je pense que les RH, on n'a pas toute cette faculté-là, mais vraiment pas. Mais par contre, regardez pas juste les chiffres.
Donc toi, c'est une invitation à faire confiance, des talents chacun. Les RH, ils ont l'intelligence émotionnelle. Ils vont savoir recruter les meilleures personnes pour l'équipe.
Faites leur confiance.
Faites confiance. Un comptable, il sera mieux chiffré. Enfin, en tout cas,
ça faire
son travail.
Alliance. Ça prend une belle alliance entre les
chacun
RH.
Reste dans son rôle, en tout cas, enfin, oui. Le respect de son rôle et la confiance que le talent de chacun...
Honnêtement, quand les RH travaillent en synergie avec, le département de la comptabilité, là, il y a une magie qui s'opère parce que chacun apporte la connaissance, l'expertise. Puis les deux ensemble, quand ils ne sont pas un contre l'autre, là, mais qu'ils travaillent bien ensemble, c'est fou.
Donc, c'est une invitation à faire confiance.
Ah oui,
définitivement. De ne pas aller dans un poste auquel on n'a pas les connaissances.
Faites confiance à vos gens. Donnez-leur la chance d'être qui qu'ils sont. Juste ça, là, ça peut donner des surprises là, hallucinantes, puis ça peut aider on peut découvrir des talents qu'on pensait même pas avoir à l'interne. Vraiment, c'est mutuel. Une relation de travail fructueuse, c'est du donnant-donnant des deux côtés. Pas un plus que l'autre.
Eh bien, écoute, merci, c'était passionnant.
Merci à toi.
Recruter un responsable du bonheur ou un apiculteur, ça peut créer de la magie dans l'entreprise.
C'est un rôle magique. Une apicultrice c'est, ou un apiculteur, ça crée de la magie.
Et ça révèle des talents.
Oh, c'est indispensable, à mon avis.
Merci beaucoup.
Merci, Mathilde.
À très bientôt.
Un grand merci à vous tous pour votre écoute. Merci à Cindy Lamontagne pour son témoignage et sa vision pétillante de l'humain en entreprise. Un grand merci à Patrimoine RH pour la publication et la distribution de cet épisode. Merci également à Asdin Hakif pour le montage. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour des nouveaux partages sur le concept du bonheur au travail. Et vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur toutes les plateformes de podcast. Bye bye.